Partie 1. Cette guerre a tant creusé le fossé des générations qu'elle menace de déchirer le pays. Frank Church, sénateur des États-Unis de 1957 à 1981. Chapitre 1. Île de Coronado, Californie, mai 1966. Le domaine des McGrath était un monde à part, protégé et caché derrière son mur d'enceinte et ses portails. En cette heure de crépuscule, les fenêtres à meneaux de la bâtisse style Tudor luisaient comme des pierres précieuses au milieu du luxuriant parc paysager. Les feuilles des hauts palmiers se balançaient, des bougies flottaient à la surface de la piscine et des lanternes pendaient aux branches d'un grand chêne de Californie. Des serveurs vêtus de noir passaient parmi la foule d'élégants convives avec des plateaux d'argent chargés de coupes de champagne, tandis que, un peu à l'écart, un trio de jazz jouait doucement. Frances Grace McGrath, âgée de 20 ans, savait ce qu'on attendait d'elle ce soir-là. Qu'elle se comporte en parfaite jeune fille de bonne famille, souriante et sereine. Toute émotion importune devait être contenue et dissimulée, réprimée en silence. L'éducation que Frankie avait reçue, que ce soit à la maison, à l'église ou à l'école de filles Sainte Bernadette, avait instillé en elle un sens rigoureux des convenances. Les troubles qui agitaient actuellement le pays, la colère qui éclatait dans les rues des villes et sur les campus universitaires, tout cela constituait un monde distant et étranger pour elle, aussi incompréhensible que le conflit qui se déroulait dans ce lointain pays qu'était le Vietnam. Elle se promenait parmi les invités en sirotant un Coca-Cola glacé et s'efforçant de sourire, elle s'arrêtait de temps à autre pour échanger de menus propos avec des amis de ses parents, dans l'espoir qu'ils ne s'aperçoivent pas de son inquiétude. Elle scrutait la foule. Son frère était en retard à sa propre fête. Frankie idolâtrait son frère aîné, Finlay. Avec leurs 2 ans d'écart, ils avaient toujours été inséparables. 2 gamins aux cheveux noirs et aux yeux bleus qui passaient leurs étés californiens à faire du vélo sans surveillance d'un bout à l'autre de la paisible île de Coronado, rentrant rarement chez eux avant la tombée de la nuit. Mais là où il s'apprêtait à partir, elle ne pouvait le suivre. Le vrombissement d'un moteur de voiture troubla la tranquillité de la fête et des klaxons retentirent en rafale. Frankie vit sa mère tressaillir. Bette McGrath détestait tout ce qui était ostentatoire ou vulgaire, et elle n'appréciait assurément pas qu'on annonce sa présence à coups de klaxon. Quelques instants plus tard, le portail de derrière s'ouvrait brusquement, livrant passage à Finlay, son beau visage tout rouge, une boucle de cheveux noirs pendant sur son front. Son meilleur ami, Ray Walsh, le tenait par la taille. Mais aucun des deux ne semblait bien camper sur ses jambes. Tandis qu'ils riaient, ivres, en se soutenant mutuellement, d'autres amis arrivèrent derrière eux d'un pas titubant. Impeccable dans sa robe fourreau noir, avec ses cheveux relevés en un chignon impérial, la mère de Frankie se dirigea vers le groupe de jeunes hommes et jeunes femmes hilares. Elle portait les perles que sa grand-mère lui avait léguées, rappelant avec subtilité que Bette McGrath avait autrefois été Bette Alexander, de la famille Alexander de Newport Beach. « Mes garçons, » dit-elle de sa voix posée de professeur de savoir-vivre, « quel bonheur de vous avoir enfin là !» Finlay s'écarta de rail en trébuchant et essaya de se redresser. Le père de Frankie fit un signe de la main au groupe et la musique s'arrêta, cédant brusquement la place aux bruits habituels de l'île de Coronado un soir de fin de printemps. Le murmure rauque de l'océan, le bruissement des feuilles de palmiers, les aboiements d'un chien dans la rue ou sur la plage. Il s'avança à grands pas dans son costume noir sur mesure, sa chemise blanche immaculée et sa cravate noire, une cigarette dans une main et un Manhattan dans l'autre. Avec ses cheveux d'ébène ras et sa mâchoire carrée, il avait un peu l'air d'un ancien boxeur qui aurait fait fortune et appris à bien s'habiller, ce qui n'était pas si loin de la vérité. Même au milieu de cette foule de gens beaux et élégants, sa femme et lui se démarquaient. Il respirait la réussite. Elle était une vieille fortune et avait toujours été au sommet de l'échelle sociale. Lui avait gravi les échelons pour se tenir avec assurance à côté d'elle.
« Chers amis, parents, jeunes diplômés !» lança le père de sa voix tonnante.
Durant l'enfance de Frankie, il avait gardé un léger accent irlandais. mais il avait fait beaucoup d'efforts pour l'éliminer. Il mettait souvent en avant sa mythologie personnelle d'immigré, une histoire de réussite à la force du poignet et de dur labeur. Il évoquait rarement la chance et l'opportunité qui s'étaient offertes à lui quand il avait épousé la fille de son patron, mais tout le monde le savait. Et tous savaient aussi qu'après la mort des parents de celle-ci, le père de Frankie avait plus que triplé leur fortune grâce à son empressement à faire prospérer l'immobilier californien. Il prit sa mince épouse par la taille et la serra contre lui autant qu'elle le permettait en public.
« Merci d'être venu nous aider à souhaiter bon voyage à notre fils, Finlay. Fini les passages au commissariat de Coronado à 2 heures du matin pour payer sa caution après une ridicule course de voiture. »
Il y eut quelques rires. Tous les convives savaient par quel chemin tortueux Finlay était arrivé à l'âge adulte. D'aussi loin que Frankie s'en souvint, il avait toujours été très apprécié, un enfant terrible capable d'attendrir les cœurs les plus durs. Les gens riaient de ses blagues, les filles le suivaient partout. Tout le monde aimait Finlay. Mais la plupart s'accordaient à dire qu'il était intenable. Il avait redoublé une classe à l'école primaire en raison de son comportement agité. Il était parfois irrespectueux à l'église, et il aimait les filles qui portaient des jupes courtes et avaient des cigarettes dans leur sac à main. Quand les rires cessèrent, le père de Frankie poursuivit.
« Un toast à Finlay et sa grande aventure! Nous sommes fiers de toi, mon fils !»
Des serveurs apparurent avec des bouteilles de Dom Pérignon et resservirent du champagne. Le tintement des verres résonna de toutes parts. Les convives entourèrent Finlay. Les hommes lui donnaient des tapes de félicitations dans le dos. De jeunes femmes s'approchèrent en jouant des coudes, se disputant son attention. Le père de Frankie fit un nouveau signe à l'attention du groupe et la musique reprit. Se sentant délaissé, Frankie rentra dans la maison et traversa la vaste cuisine où les traiteurs s'affairaient à disposer des canapés sur des plateaux. Elle se glissa dans le bureau de son père, son lieu favori quand elle était enfant. De gros fauteuils en cuir capitonné avec repose-pieds, deux murs de livres, un énorme bureau. Elle alluma la lumière. Il flottait dans la pièce une odeur de vieux cuir et de cigares, avec une pointe d'après-rasage de qualité. Des piles bien rangées de permis de construire et de plans architecturaux reposaient sur le bureau. Un mur entier de la pièce était consacré à l'histoire de leur famille. Des photos encadrées que la mère de Frankie avait héritées de ses parents et même quelques-unes que son père avait rapportées d'Irlande. Il y en avait une de l'arrière-grand-père McGrath, dans son uniforme de soldat, au garde-à-vous devant l'objectif. À côté de celle-ci se trouvait une médaille de guerre encadrée que Francis, le grand-père de Frankie, avait reçue durant la Première Guerre mondiale. La photo du mariage de ses parents était placée entre le Purple Heart encadré de son grand-père Alexander, médaille militaire décernée aux blessés de guerre, et une coupure de presse sur laquelle figurait une photo du navire à bord duquel il avait servi à son retour au port à la fin de la guerre. Il n'y avait aucune photo de son père en uniforme. À la grande honte de celui-ci, il avait été réformé et jugé inapte au service militaire. C'était une chose qu'il déplorait en privé, auprès de sa famille seulement, et seulement quand il avait bu. Après la guerre, il avait convaincu le grand-père Alexander de construire des logements abordables à San Diego pour les vétérans. Il disait que c'était sa contribution à l'effort de guerre. Et cela avait été un immense succès. Dans les conversations, le père de Frankie montrait toujours un tel patriotisme militaire que tout le monde à Coronado semblait avoir oublié qu'il n'avait pas servi. Au mur ne figurait aucune photo de ses enfants. Pas encore. Il fallait mériter sa place. Frankie entendit la porte s'ouvrir doucement derrière elle.
« Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas te déranger. »
Elle se retourna et vit Ray Walsh dans l'encadrement de la porte. Il tenait un cocktail dans une main et un paquet de cigarettes Old Gold dans l'autre. Il cherchait visiblement un endroit tranquille pour fumer.
« Je me cache de la fête, » dit-elle. « Je ne suis pas trop d'humeur à ça. »
Il laissa la porte ouverte derrière lui.
« Je faisais la même chose, je crois. »
« Tu te souviens sans doute pas de moi. »
« Joseph Ryerson Walsh, on te surnomme Rye, comme le whisky de seigle, »
dit Frankie en essayant de sourire. C'était ainsi qu'il s'était présenté à elle l'été précédent.